8h21 sur France Culture, nous retrouvons nos invités. Nous allons continuer de parler de mai 68 en compagnie de Boris Gobie, politiste, historien, maître de conférences en sciences politiques à l'École normale supérieure. Vous avez notamment publié Mai 68 des écrivains. À côté de vous, Julie Pagis, chercheuse en sociologie politique au CNRS. Vous avez publié Mai 68, un pavé dans leur histoire par rapport à ce que vient de dire Frédéric Say sur les interprétations politiques et la manière dont la politique se saisit aujourd'hui de cet événement. Un commentaire, Julie Pagis.
On retrouve dans ce qui a été dit une espèce de croisade contre mai 68 que les uns et les autres accusent de tous les maux. Et donc, effectivement, il y a eu une construction venue effectivement bien plus de la droite. Alors avec, comme vous l'avez rappelé, Nicolas Sarkozy en 2007 qui propose de liquider l'héritage de 68. Mais aussi certains des nouveaux philosophes, Glucksmann, Bruckner, qui soutenaient Nicolas Sarkozy à cette époque-là. Et donc, il y a effectivement une croisade anti-68 qu'on accuse, comme vous l'avez dit, de tous les maux, l'individualisme contemporain, la perte des valeurs. Enfin, on pourrait mettre là-dedans tous les déclinistes, qui aussi, tous ceux qui disent tout se perd, il n'y a plus d'autorité, l'école s'en va, etc. Il y a ce côté facile de dire c'est la faute à 68. Et donc, forcément, à partir du moment où un candidat à la présidentielle se positionne contre mai 68, ça a fait évoluer les clivages politiques du champ politique français. Par rapport à ce clivage gauche-droite, est venu quand même se mettre une nouvelle opposition structurante, en gros une opposition libéralisme culturel, ou au contraire, une revendication d'un retour à un ordre moral, etc., une tradition qui est revendiquée et l'an dernier par François Fillon. Donc en fait, ces oppositions deviennent effectivement structurantes parce qu'il y a eu quelque part une instrumentalisation quand même politique, on peut le dire, de ces événements.
Où on rend des interprétations, on peut également citer celle de Luc Ferry qui, en compagnie d'Alain Renaud, avait publié La Pensée 68. Il s'agissait de faire une trilogie avec notamment Jacques Derrida, avec également Edgar Morin, avec d'autres penseurs, dont Pierre Bourdieu, consistant à dire finalement mai 68 est aussi un moment de la pensée qui se traduit aujourd'hui politiquement avec, on reconnaît des résonances dans le terme par exemple d'individualisme. Dans ce livre, il y a cette accusation portée contre mai 68, Boris Gobie.
Oui, tout à fait. C'est intéressant de rappeler ce moment parce que c'est un des moments importants de la construction d'une mémoire dominante et de quelque chose qu'on pourrait appeler une vulgate finalement, parce que, alors de façon très élaborée, parce que c'est un livre qui se veut très élaboré. Mais qui d'abord inconstruit ce qui est un artefact en fait, c'est-à-dire l'existence d'une pensée 68. Or évidemment, ça fait l'économie de savoir si ces gens-là qui ont fait mai 68, qui sont plongés dans mai 68, avaient lu Derrida, Foucault, Althusser, etc. Althusser un peu plus parce qu'il avait des élèves très politisés, etc. Et de quelle manière ils l'avaient lu. Donc c'est toujours la question de savoir si les idées font les événements. Bon, il faudrait y aller d'avoir d'un tout petit peu plus près quand même. C'est comment les gens lisent et comment ils se l'approprient pour faire événement. Et leur critique était contre toute la pensée dite anti-humaniste de cette époque, disant que la pensée anti-humaniste est en fait quelque chose qui, paradoxalement, a favorisé l'individualisme. Parce que quand vous déconstruisez l'humanisme, en fait, il reste plus rien sinon que l'unité élémentaire de l'individu qui ne pense qu'à lui-même. Et au fond, il s'appuyait aussi sur... Ça vient juste après l'interprétation de Gilles Lipovetsky, dans l'ère du vide en 1983, je crois, qui voulait voir dans l'événement de mai 68 un événement hédoniste. On pourrait croire que ces deux interprétations sont très très différentes. Anti-humaniste, hédoniste, c'est assez assez bizarre. Mais en fait, dans l'esprit de Luc Ferry, ça va dans le même sens. Et ce qui est assez dramatique, moi je trouve, assez déprimant pour nous, c'est qu'on a beau publier, faire de la recherche, etc. Luc Ferry, je l'ai entendu la semaine dernière à la radio, dans une autre radio du service public, dire exactement la même chose que ce qu'il disait au milieu des années 80. C'est-à-dire que même si la recherche avance, la vulgate ne bouge pas.
Oui, quand vous dites la recherche avance, c'est-à-dire vous êtes placé du point de vue des acteurs, Julie Pagis, et donc vous notez que ça n'est pas du tout la signification que ces acteurs ont donnée à l'événement.
Oui, mais pour prolonger ce que disait Boris à l'instant, quand on travaille sur des anonymes et qu'on va voir ce qu'ils font après 68, cette accusation d'individualisme tombe tout de suite. Parce que là, j'ai amené quelques chiffres sur le corpus des 200 familles sur lesquelles j'ai travaillé. Au moment de l'enquête entre 2003 et 2006, 80% continuent à s'intéresser de près à la politique, 60% déclarent manifester régulièrement ou souvent pour la sauvegarde des services publics contre le racisme, 50%, la moitié, ont encore des des activités militantes, donc collectives, à la gauche de l'échiquier politique. Ils sont très nombreux à être membres d'associations, d'organisations politiques, type ATTAC, d'organisations humanitaires. Donc, finalement, des gens qui, au contraire, après avoir participé à 68, ont continué à chercher d'une manière ou d'une autre, il y a eu différentes manières, à continuer à essayer de bouleverser cet ordre social dans des structures collectives.
Bon, mais il y a quand même, je vais défendre non seulement Luc Ferry, mais aussi les tenants de cette thèse plus largement, parce que d'abord il n'y a pas que Luc Ferry qui dit cela, et on pourrait, sans assommer les auditeurs avec différents auteurs, on pourrait également parler du livre d'Ève Chiappello et de Luc Boltanski, qui consiste à dire finalement mai 68 a été une manière de diffuser le capitalisme, les valeurs du capitalisme et l'individualisme, et on voit par exemple, là je vais m'en tenir à quelques figures du mouvement de mai 68, que vous avez d'ailleurs cité, si on prend par exemple Glucksmann, si l'on prend Bruckner, bref, ces gens-là qui ont eu un rôle à ce moment-là, on voit bien qu'effectivement, leur trajet a été de la gauche vers la droite, et même si auprès de ces anonymes que vous avez interrogés, Julie Pagis, on voit qu'il n'y a pas eu ce mouvement-là, comment expliquer, Boris Gobi, qu'un certain nombre de leaders aient eu, en revanche, un vrai déplacement?
Alors qu'un certain nombre de leaders aient eu un véritable déplacement, ça ne fait strictement aucun doute. Le problème, c'est que, mais ça a été dit en première partie d'émission, je ne vais pas insister, c'est que comme c'est à eux qu'on prête le micro, ça donne l'impression que c'est l'ensemble de la génération 68 ou des 68ards, comme on dit, qui a connu ce déplacement, ce qui n'est pas vrai. Alors c'est très intéressant le fait de citer l'ouvrage d'Ève Chiappello et Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme, parce que j'en fais pas tout à fait la même lecture. Ce qu'ils disent, à mon avis, c'est pas que mai 68 a permis l'essor de l'individualisme, c'est que le capitalisme, alors on va le dire comme ça, hein, en fait ça passe par des rapports du patronat, etc., c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus précis que ça, va s'emparer d'une des dimensions de mai 68, à savoir la critique artiste du capitalisme, pour la retourner en faveur du capitalisme et d'un capitalisme modernisé où il s'agirait d'être tout le temps en projet permanent, voilà,
d'être créatif.
C'est-à-dire c'est le retournement de la créativité qui était considéré comme le mot d'ordre révolutionnaire en mot d'ordre finalement managérial. Et ça, c'est quand même, ça pose une autre question que celle des effets de 68. Ça pose la question de l'empêchement qui a eu lieu des effets de 68. C'est-à-dire que, comme disaient Deleuze et Guattari en 1984, au fond, la situation présente de la France au milieu des années 80, elle est le produit du renoncement à certains idéaux de mai 68 plutôt que de mai 68 lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé les agencements collectifs qui permettaient de faire vivre les idées de mai 68 et de les diffuser dans la société.
Et puis, il faut évoquer également Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se réclame de la pensée de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a eu des mésaventures lors des événements de mai 68, puisqu'il s'est retrouvé avec une poubelle sur la tête. On a considéré pour les uns que c'était une manière de s'en prendre au mandarin, pour les autres que c'était un geste d'une grande violence. Mais en tout cas, la pensée de Ricoeur est passée à côté de l'événement. Elle n'est pas du tout au cœur de mai 68. Et puis on a Julie Pagis, un président qui, lui, n'a pas de lien avec mai 68 parce qu'il est né après. Qu'est-ce que pourrait être la vision macronienne de mai 68 ?
Il va falloir attendre qu'il s'exprime vraiment là-dessus, mais il me semble, de ce qui a déjà été dit et de ses hésitations à commémorer l'événement, qu'il va, comme d'autres l'ont fait avant, s'attribuer la légitimité de ce passé en n'en retenant une fois de plus qu'une partie, et effectivement en ne retenant de mai 68 que le côté révolution des mœurs, avancée de tout ce qu'on peut appeler le libéralisme culturel dont il va se revendiquer et qui effectivement le positionne aujourd'hui dans le clivage politique contre ses adversaires de droite. Mais du coup j'ai envie quand même de rappeler que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et rappeler du coup comment est-ce que ça paraît complètement antinomique avec un certain nombre de revendications de 68. Depuis qu'il est au pouvoir, la réforme du code du travail, donc un retour en arrière sur les droits syndicaux, ça va à l'inverse des avancées syndicales gagnées en 68. Supprimer l'ISF, ou en tout cas le réformer très, très, très sensiblement, ça va aussi contre le renversement de l'ordre établi. Les lois pour renforcer le pouvoir des préfets ou des forces de police, enfin tout cela.
Mais pourtant, il me semble qu'il a à ses côtés Daniel Cohn-Bendit, qui est était, je crois, l'un des leaders de mai 68.
Je ne vois pas de qui vous parlez.
Alors, bon, écoutez, je vais vous le présenter. À l'époque, on considérait que nous étions tous des juifs allemands. Danny Cohn-Bendit était un leader de mai 68. Le fait qu'il se retrouve aujourd'hui parmi les macroniens, vous avez une interprétation, Boris Gobi?
Bon, je suis pas dans la tête de Daniel Cohn-Bendit, donc c'est difficile, mais je pense que c'est l'étape finale, si vous voulez, ultime, pas finale, car il aura peut-être d'autres évolutions, mais d'une évolution qui a été engagée finalement dès la fin des années 70 et au début des années 80.
Mais un peu plus tard. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais ce positionnement qui est libéral-libertaire, c'est-à-dire sur le plan des mœurs, être libéral, ou libertaire plutôt, sur le plan économique, être libéral, et donc là aussi, on suit ce que l'on a dit sur la thèse de Boltanski et de Chiapello, même si je lui fais un peu violence, c'est-à-dire on voit très bien qu'il y a la possibilité de retenir de mai 68 un certain nombre d'éléments facilitateurs du capitalisme.
Alors ça, c'est une thèse qui démarre, figurez-vous, assez tôt, puisque c'est Régis Debray qui la défend dès 1977 dans un petit opuscule qui s'appelle « Modeste contribution aux discours et cérémonies officielles du 10e anniversaire », où il utilise le schéma de la ruse. La ruse du capitalisme, c'est que mai 68, en fait, en finalement libérant les mœurs, a permis le passage d'une vieille bourgeoisie industrielle engoncée dans le conservatisme moral vers une bourgeoisie financière très détendue, qui, du coup, n'avait plus de barrières, finalement, à son expansion. La ruse de la raison capitaliste, ça c'est quelque chose qu'il met en valeur dès ce moment-là, et qui va être repris ensuite, justement par Luc Ferry et Alain Renaud. Luc Ferry l'a redit la semaine dernière, il dit les 68 tard, ce sont les cocus de l'histoire, puisque il voulait faire un monde, peut-être voulait-il faire un monde solidaire, alors en même temps il dit que c'est un événement individualiste, c'est curieux, mais en fait ils ont accouché d'une société tout autre, finalement moderniser le capitalisme. L'accusation de libéral libertaire, elle va dans le même sens, mais elle est un petit peu différente, et elle est propagée dès 78, c'est à la même époque, hein, par Serge Julie, qui dit, pour moi, 68, en fait, c'était un événement libéral-libertaire. Or, Serge Julie a quand même été à la gauche prolétarienne, et l'un des auteurs d'un livre qui s'appelait « Vers la guerre civile » en 71, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est le point de vue de 78, pas de 70. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est le point de vue qui nous renseigne sur le présent de la remémoration.
Mais Libération, sous la férule de Serge Julie, a également été perçue comme étant l'un des moyens pour la gauche de se convertir au capitalisme. Et donc, on voit bien, finalement, Boris Gobi, qu'il n'y a pas forcément de contradiction pour Daniel Cohn-Bendit de se retrouver aux côtés aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Julie Pagis.
Oui, il y a des formes de continuité pour ces hommes dont on a parlé là, Daniel Cohn-Bendit, Serge Julie. Mais pourquoi? Et c'est important de le rappeler, parce que c'est lié à leur position de pouvoir, les différentes positions de pouvoir qu'ils ont occupées. Donc, je vais peut-être avoir un discours un peu matérialiste, mais il y a un côté, les idées qu'on a sont quand même liées à la position qu'on a. Et donc, forcément, quand on se met à avoir des positions de pouvoir politiques, quelque part, ce n'est pas étonnant qu'un certain nombre d'entre eux, on a cité Daniel Cohn-Bendit, c'est aussi le cas de Romain Goupil et d'autres qui soutiennent aujourd'hui Emmanuel Macron. Et par contre, une fois de plus, ça serait erroné de rapporter ça à 68. Il faudrait davantage rapporter ça à précisément leur trajectoire, les positions de pouvoir qu'ils ont occupées dans les champs médiatiques, politiques, etc.
Parce que finalement, en dehors de ces noms que l'on vient de citer, Boris Gobi, et il y a assez peu de leaders politiques qui viennent de mai 68. C'est-à-dire que François Hollande, par exemple, pour lui, mai 68, ça n'était pas vraiment une référence.
En tout cas, je l'ai jamais entendu dire des choses particulièrement saillantes sur mai 68 ou son rapport à mai 68. Mais bon, je ne suis pas exégète de la pensée de François Hollande. Oui, c'est vrai, mais ceux qui peuvent s'en réclamer se réclameront donc d'une version très spécifique de mai 68, parce qu'il est évidemment, quand vous occupez une position de pouvoir et lorsque vous êtes proche d'un président dont la politique est quand même une politique qui consiste à détruire plus encore les défenses du monde du travail, vous pouvez pas vous revendiquer d'un mai 68 qui serait le grand mouvement social du 20e siècle, un mouvement pour l'égalité, un mouvement pour l'horizontalité. On parle de verticale du pouvoir aujourd'hui, hein, la verticalité du pouvoir. On dit qu'Emmanuel Macron aime se draper dans des oripeaux qui sont disons crypto-monarchistes, enfin en utilisant disons la tonalité monarchiste de la 5e République. Ça, c'est antithétique avec la volonté d'égalité et de participation de tous à la décision du destin commun. En 68, on peut pas, en fait, si vous voulez, on choisit le mai 68 qu'on veut en fonction des intérêts qu'on a là aujourd'hui à défendre, et ça c'est quelque chose de très fréquent.
Oui, Julie Pagis.
Je voulais juste rajouter que votre question m'étonnait un peu, dans le sens où vous étonnez, vous, qu'il n'y ait pas de représentants politiques qui se revendiquent de mai 68, mais au contraire, j'ai envie de dire, et pour cause, puisque la plupart revendiquaient le renversement de l'ordre établi, le refus du pouvoir vertical, quelque part, et beaucoup ont mis en œuvre dans leur trajectoire, que ce soit au niveau politique, professionnel aussi, le refus de parvenir. Donc qui était quand même une dimension essentielle et quelque part finalement le fait de constater que personne aujourd'hui dans les hommes politiques connus se revendique avoir été construit par mai 68, ça va plutôt dans
où
le sens
où l'aurait été de manière effective.
Où l'aurait été de manière effective, ça va dans le sens que c'est pas là qu'on les retrouve. Et là, pour une fois de plus, pour revenir aux anonymes sur lesquels j'ai travaillé, il y en a quelques-uns qui rentrent dans des partis politiques, certains au PS, on en retrouve certains au NPA ou au Front de Gauche, mais c'est une minorité. Là aussi, contrairement à ce qu'on a pensé, l'idée d'une reconversion politique, la plupart soit convertissent leur militantisme dans leur profession, dans des professions notamment dans l'animation, le travail social, le journalisme, etc. Et où ont converti, ont importé leurs dispositions militantes dans leur sphère quotidienne, dans la vie privée, dans l'éducation des enfants, dans les formes de vie au quotidien. J'ai envie de dire que j'ai retrouvé pour préparer un peu l'émission quelques graffitis, quelques slogans. Donc il y en avait un graffité dans la cour de la Sorbonne qui disait « Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer à la réalité quotidienne ont dans la bouche un cadavre. » Donc, quelque part, bon, ce constat est aussi à l'image de ce qu'ils sont devenus.
Et puis, il faut évoquer également celui qui incarnait l'anti-mai 68, autrement dit, le général de Gaulle, et là, sa postérité est quand même étonnante, Boris Gobi, puisque donc, vous l'avez rappelé en introduction, mai 68, c'est un événement important parce que le pouvoir vacille, de Gaulle est à Baden-Baden, et il y a un flottement de telle sorte que, on ne sait pas, on en discute encore, pour savoir s'il a véritablement songé ou pas à quitter l'Élysée de manière définitive. Mais aujourd'hui, il y a un véritable unanimisme autour du général de Gaulle et il est très compliqué de rappeler aux individus qu'il y a eu une opposition au général de Gaulle, qu'on pouvait formuler un certain nombre de critiques à sa politique.
Tout à fait, mais c'est parce qu'on se souvient du général de Gaulle de 1940. Je crois que cette figure cette figure est évidemment rayonnante, aussi dans la construction qui en a été faite ensuite. Mais c'est vraiment l'homme de l'appel du 18 juin. Donc ensuite, si vous voulez, le de Gaulle gouvernant dans les années 60 est beaucoup plus contesté qu'on ne croit. Il a été, d'abord, la fondation de la Ve République reste contestée pendant toutes les années 60 par ceux qui n'avaient pas accepté le climat de coup d'État, disons, dans lequel la République s'était installée. Et c'est un président qui a été très très malmené finalement par la jeunesse justement en particulier, mais dans les années 60. Et on a un peu effectivement oublié cela.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retournement, parce que, bon, évidemment, l'appel du 18 juin, impossible de le critiquer. En revanche, la manière, par exemple, dont de Gaulle a traité les mouvements de résistance à la fin donc de la Seconde Guerre mondiale, même à ce moment-là, il y a des choses que l'on peut dire. Il y a un certain nombre d'épisodes gaullistes pendant la Seconde Guerre mondiale qui peuvent être soumis à la critique, comme on peut soumettre à la critique la politique de Churchill pendant la guerre. Après tout, rien n'est sacré. Comment expliquez-vous que cet homme, finalement, aujourd'hui, soit une figure complètement unanime dans la classe politique de Florian Philippot à Emmanuel Macron, alors même que mai 68 est commémoré cette année?
Ben alors justement, ce qui va être intéressant dans la commémoration, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire de Gaulle en 68. S'il y a réellement une commémoration officielle, on n'en sait rien finalement, parce qu'on nous dit qu'il y a l'intention de, puis finalement que non, c'est renoncé, puis finalement ça, l'idée revient, puis à nouveau là j'apprends que la présidence y aurait renoncé. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc la question c'est comment vont-ils positionner de Gaulle dans cette commémoration. Car si vous positionnez de Gaulle dans la commémoration, vous êtes bien obligé de rendre compte du fait qu'effectivement, il semblerait qu'il ait envisagé de quitter le pouvoir, qu'en tout cas, il soit allé chercher une sorte d'appui auprès de Massu à Baden-Baden, mais certainement pour s'assurer aussi de la fidélité de l'armée. Ça, c'est quelque chose qui reste opaque dans la connaissance de mai 68, c'est quelles avaient été les consignes données à l'armée. Nous, dans les témoignages ordinaires que nous avons recueillis, là, il y avait quelques appelés du contingent, et ils racontent, ça c'est dans le bouquin qu'on sortira le 22 mars, que des consignes avaient été données, malgré tout, de se tenir prêt, au minimum, pour pouvoir éventuellement envoyer la troupe sur les manifestants. Ça ne veut pas dire que l'ordre avait été donné très précisément et qu'on était au bord de le faire, mais se tenir prêt, c'était quand même déjà important.
Julie Pagis.
Oui, c'est vrai qu'aussi, si on revient en 67-68, cette figure, et puis dans les affiches, les slogans 68, la Chienlit, c'est lui, la voix de son maître, la mainmise de De Gaulle sur l'ORTF, quand même, c'est des choses qui étaient très présentes, qui effectivement ont été là une fois de plus, mais parce que c'est un peu le même processus. Quand on consacre ou quand on commémore quelqu'un, eh ben, on écarte. C'est un peu une réponse à votre question. Pourquoi on ne retient qu'une chose? Il y a une chose qui était tellement saillante, évidemment, qu'on construit la mémoire sur un trait, quitte à écarter les autres.
Ou alors, une construction de la mémoire, quand on prend par exemple la construction de la mémoire gaullienne qui a été notamment faite par André Malraux, les pages que Malraux consacre dans les anti-mémoires à mai 68 avec un personnage imaginaire avec lequel il dialogue, pour lui mai 68 est une sorte de monôme, c'est vraiment un événement très secondaire à l'échelle des siècles, les siècles étant incarnés évidemment par le général de Gaulle.
Oui, alors effectivement, c'est comme si on disait, voilà, il y a une différence de taille, une différence de grandeur telle que c'est pas la peine d'aller embêter la mémoire que nous pouvons avoir du général de Gaulle avec un monôme étudiant. Bon, c'est plus compliqué que ça, parce que de Gaulle est intervenu directement dans la gestion de l'événement. Il s'en est tenu à distance au départ, mais ensuite il entre quand même dans la gestion de l'événement, donnant des consignes qui ne sont pas toujours respectées, hein, notamment lorsque il a le souhait, comme ça, Maurice Grimaud, le préfet de police de Paris, s'était exprimé là-dessus, de vider la Sorbonne. Bon, le préfet de police avait dit, là je crois que ça va être quand même un peu difficile, il faut qu'on soit un peu prudent, mon général, etc. Donc il a quand même essayé de gérer la crise et de reprendre la main. Et la façon dont il a voulu reprendre la main est très intéressante, c'est-à-dire qu'il a rejoué la stratégie charismatique. Le 24 mai, dans son discours, il appelle à un référendum. Le référendum, c'est, évidemment, comme on sait, pour De Gaulle, un référendum c'est un plébiscite sur sa personne. Évidemment, si le non l'avait emporté, il aurait quitté le pouvoir. Donc en fait, il était en train de demander aux Français: vous allez me dire si vous m'aimez encore ou pas, et puis si c'est pas le cas, bah je pars. Et puis ça n'a pas du tout marché, puisque les étudiants, juste après le discours, disaient au revoir De Gaulle, super, au revoir De Gaulle, quoi. Et même au sein de l'administration, c'est très intéressant, il a été dit qu'on ne pouvait pas organiser à temps un référendum comme celui-ci, et Pompidou lui a dit: monsieur le général, vous vous mettez trop en avant, vous allez me laisser la main, et c'est moi qui vais exposer ma démission éventuelle ou pas en cas d'élection législative anticipée. Et c'est la solution qui a finalement été retenue.
Julie Pagis, mai 68, un pavé dans leur histoire. Boris Gobi, mai 68, des écrivains, crise politique et avant-garde littéraire. Et on va continuer avec mes camarades Aurélien Bélanger et Mathilde Serrel à évoquer ce thème.